Merci, bonjour à tous. Donc, je vais le plus rapidement possible pour laisser place à la discussion. Vous proposer peut-être un début de réflexion, quelques pistes en quatre points qui vont peut-être moins directement porter sur la formation et l'identité numérique que je dirais une réflexion un peu en amont que je mène effectivement depuis quelques temps autour de cette notion d'identité numérique, à la fois pour la resituer dans le contexte général de l'environnement numérique, et puis peut-être pour aussi la questionner, voire en effet la critiquer. Alors, le premier point que je voudrais rappeler comme point de départ, qui constitue justement le contexte de ces questions touchant à l'identité numérique, c'est tout ce qui concerne la problématique de la traçabilité, que j'ai pour habitude de résumer avec la formule « on ne peut pas ne pas laisser de traces », par allusion bien sûr à la célèbre formule de l'école de Palo Alto « on ne peut pas ne pas communiquer ». Je pense qu'il est effectivement fondamental de poser cette question d'identité numérique, d'abord par rapport à cette situation, qui est une situation probablement inédite dans l'histoire, qui fait qu'on assiste en quelque sorte à une sorte d'inversion sur la question de la mémoire. Dans la mesure jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, nous avons toujours déposé des traces. C'est l'histoire même probablement de la culture et de l'humanité en tant que telle. Mais ces traces déposées, grâce à toutes sortes de techniques, se faisaient justement contre un oubli qui était lui-même en quelque sorte le fond, qui était ce qui était donné en premier lieu. C'était justement cette force de l'oubli, et contre l'oubli, il fallait inventer des techniques de mise en trace pour bien sûr conserver certains aspects de nos pratiques culturelles et sociales. Je crois qu'aujourd'hui, on est en passe donc de connaître une inversion par rapport à cette donnée anthropologique fondamentale, dans la mesure où on assiste à ce qu'on pourrait appeler maintenant une mémoire par défaut, au sens où toutes nos activités, dès lors qu'elles ont une part informationnelle, numérique, c'est-à-dire de plus en plus la totalité de nos activités, y compris les plus quotidiennes, pas seulement dans l'ordre bien sûr du savoir ou de l'information proprement dite, donc toutes ces activités déposent des traces instantanément, automatiquement, souvent de manière aveugle, ou en tout cas très, très opaque pour nous-mêmes, et en tout cas de façon souvent non intentionnelle. Donc là je renvoie à tous les aspects d'une mémoire qu'on peut dire machinique, algorithmique, c'est bien sûr donc des machines, des logiciels, des moteurs, etc. On en parlera peut-être tout à l'heure. Donc je pense que déjà l'action de l'identité numérique, il faut la penser par rapport à ce contexte qui évidemment pose quantité de questions justement sur la nature de ces traces, sur leurs enjeux, et au-delà, j'en ai tout à l'heure rapidement, sur la question de la mémoire. Dans cette perspective-là, j'insiste souvent sur ce que j'appelle, peut-être avec un certain abus de langage, mais pour aller vite, un passage des signes aux traces. Je crois qu'on sort d'une période où dominait dans la pensée occidentale, et ça s'est vérifié dans quantité de disciplines différentes, la domination du paradigme du signe, c'est bien sûr le structuralisme, la sémiologie, mais aussi certains aspects de la sociologie, où finalement, qui était très, très lié, je crois, à la société de consommation, où ce qui était recherché par les analystes, aussi bien que par les entreprises, c'était l'identification de dénominateurs communs. C'est-à-dire qu'on traquait le stéréotype, le code, le répertoire commun, la mythologie, pour reprendre le terme de Roland Barthes. On cherchait à établir des catégories, aussi bien sociologiques que, par exemple, dans le domaine du marketing. Donc on visait, on traquait des types, on construisait des types. Aujourd'hui, je crois que là aussi, donc, on constate une inversion qui est justement liée, à mon sens, à cette traçabilité automatique, en quelque sorte, dans la mesure où on va donc maintenant s'intéresser moins aux signes qu'aux traces. Et avec cette notion de trace, ce qui émerge, c'est la quête non plus des types, des catégories, mais au contraire la quête des singularités. On va chercher à cerner de manière toujours plus fine une singularité absolue, d'abord au niveau de la personne, donc bien sûr c'est là qu'on va rejoindre la question de l'identité numérique, la personne est sans doute même des strates, je dirais encore en deçà de la personne, c'est-à-dire les différents états de la personne, les différentes personnalités de la personne, en essayant donc de viser ce qu'on pourrait appeler, si je vais reprendre les termes justement sémiotiques, non plus le type, mais le token. Plus on va s'approcher de cette singularité, notamment bien sûr sous la forme de ce qu'on va maintenant appeler le profil, plus on va recueillir ou constituer en fait une plus-value informationnelle. Donc ce qui est intéressant, c'est ce changement de braquet. On ne vise plus les catégories, mais de plus en plus les individus. Du coup, bien sûr, l'individu lui-même va, en tout cas, on peut poser la question, l'individu semble en mesure à ce moment-là de se redéfinir autrement, son entité même, son intégrité, sa permanence, son identité, justement, l'identité de l'individu avec lui-même, tous ces éléments sont remis en question et probablement redéfinis, dans la mesure où l'individu, justement, dans cet environnement numérique, va de plus en plus se définir comme lui-même une collection de traces. Avec donc une grande partie de ces traces, je l'ai dit, qui sont hors de son propre contrôle, en tout cas hors de sa propre intention, qui sont bien sûr une partie de ces traces sont générés par lui-même, par sa propre activité consciente ou intentionnelle, mais beaucoup d'autres de ces traces sont générées d'une part par l'environnement lui-même, donc par les outils, par les logiciels, encore une fois les machines qu'il utilise, les services qu'il utilise, et sont générées aussi bien sûr par les autres. Alors, on entre à ce moment-là, ce sera le deuxième point que je voudrais pointer pour donner simplement pour la discussion quelques repères. On entre donc dans une nouvelle économie des traces, dans tous les sens du mot économie, y compris sur celui en termes de marchandisation, puisque on comprend ainsi que les données personnelles, que nous allons donc essaimer au fur et à mesure de nos pratiques en ligne en particulier, ces données personnelles vont devenir la monnaie de l'économie numérique qui, on le sait, prend les aspects très souvent de gratuité, bien sûr, jamais en fait question véritablement de gratuité, ça n'est qu'une, en quelque sorte une surface, une première couche, derrière laquelle, bien sûr, il y a justement un trafic, une monétisation plus ou moins directe de nos données personnelles. C'est-à-dire qu'on entre là dans une logique assez systématique de deal, où pour moi-même accéder à de l'information, pour accéder à des services, pour accéder soit à du contenu, soit même à des relations en ligne, je vais devoir concéder le dépôt d'un certain nombre de données personnelles. Et c'est bien parce qu'on a affaire justement à cette, en quelque sorte, à ces contraint bien sûr souvent tacite, hein, mais à cette logique du deal que beaucoup d'individus vont accepter, hein, plus ou moins volontiers, je dirais, mais vont accepter au moins de délivrer pour certains un très grand nombre de données personnelles et pour certains des données personnelles relativement intimes. Alors cette sorte d'économie des données, elle va donc renforcer une logique qui, à mon sens, c'est vraiment une des logiques majeures de cette société dite de l'information, qui est la logique de personnalisation de l'information. On va de plus en plus, on est déjà très largement dans un univers informationnel où, en fait, toute information doit être sur mesure. On n'accepte plus d'avoir tous la même information. Hein. On le voit déjà dans les pratiques, je dirais, assez répandues, qui, même au stade de ce qu'on peut appeler grand public, on ne veut plus le même journal télévisé pour tout le monde, on ne veut plus le même journal pour tout le monde, on ne veut plus le même magazine, mais chacun veut son information. Hein. Donc on va de plus en plus, bien sûr, me proposer de paramétrer, par exemple, je suis lecteur du Monde ou de l'IB, mais on va me proposer proposer dès l'arrivée, en fait, sur le site ou le service, de paramétrer un certain nombre d'éléments afin d'avoir mon IB ou mon monde. Et la formule même, vous la trouvez, bien sûr, sur toutes les offres, en particulier dans le monde de l'information médiatique, mon Télérama, mon ceci, mon cela. C'était bien sûr initié depuis longtemps par à la fois le MySpace, mon espace, et le YouTube. Hein, on est désormais constamment dans un régime davantage d'interlocution dans un système qui était celui des mass médias à l'ancienne, un système de diffusion radiale avec une seule source au centre, un peu inaccessible, qui diffuse de manière radiale une information à un très grand nombre de personnes, typiquement la communication de masse. Là au contraire, donc, on est dans une logique de personnalisation qui est une logique de service plutôt que de diffusion, de service et bien sûr ensuite de relais plutôt sur le mode de la viralité, c'est là qu'on va entrer en scène sur les réseaux sociaux. Et naturellement, là je ne vais pas insister longuement, mais bien sûr c'est tout un aspect de la question extrêmement important, c'est justement cette problématique de la monétisation des données, monétisation des profils. Dans la mesure où toutes ces traces que nous déposons lors de nos activités numériques sont justement, je les déposais tout à l'heure aussi, bien sûr ce sont des signes, mais ce sont des signes très, très particuliers. Ce sont des données qui sont détachables, qui sont calculables et qui en même temps, bien sûr, reviennent donc donnent des indications très précises, très fines de nos préférences, de nos goûts, de nos habitudes, de nos réseaux personnels, etc. Donc on est là en quelque sorte dans une sorte de dénonciation très paradoxale, très nouvelle aussi je crois, puisque ces traces sont à la fois très liées à nous-mêmes et en même temps totalement détachables, donc calculables, combinables bien sûr dans les bases de données et dans les algorithmes de traitement, le flux de données et de traitement qui vont pouvoir calculer à partir de ces petites traces souvent très infinies, ces images, souvent insignifiantes en elles-mêmes, vont pouvoir calculer donc des profils et au-delà, bien sûr, chercher à prévoir des comportements, en particulier, naturellement, les comportements d'achat, mais pas seulement, ça peut être aussi, bien sûr, au sens de comportements plutôt social ou politique. Donc, l'un des enjeux de cette traçabilité, c'est d'une part la monétisation des données, mais c'est aussi, et peut-être plus fondamentalement encore, une intention plus ou moins clairement affichée par les acteurs importants de la vie numérique, l'intention de prévoir le comportement. Tracer quelqu'un, c'est pas seulement garder une trace de ce qu'il a fait, c'est bien sûr si on dépense autant d'énergie et d'argent pour récolter ces traces et les traiter, c'est bien sûr parce qu'on attend de ces traces que, traitées correctement, elles vont pouvoir prévoir le comportement des individus. Donc il y a vraiment un enjeu politique majeur, même lorsqu'on s'en tient aux données de consommation. Alors tout ça donc est à relier à une industrie que certains qualifient même d'industrie de la recommandation. On sait que dans cet univers numérique, ce qui est devenu rare, bien sûr, c'est pas l'information, au contraire, c'est l'attention. Dans une société de surinformation, ce qui est très très rare et donc très précieux, c'est l'attention. Et dans cette logique à la fois de traçabilité et de prévisibilité des comportements, on va développer toutes sortes de techniques finalement pour faire en sorte que les individus, dans leur présence numérique elle-même, vont eux-mêmes servir à recommander soit des contenus, soit des produits ou des services. Donc on a là aussi un tournant, je crois, puisqu'on passe d'une logique de la cible, qui était celle qui dominait dans cette société de consommation, j'évoquais tout à l'heure, où le diffuseur ciblait des lecteurs, des auditeurs, une audience, etc., quitte à découper, bien sûr, des paires de marché, et je crois que maintenant, on passe de la cible au crible. Hein, c'est-à-dire que toute information doit être criblée, filtrée, validée par les consommateurs eux-mêmes, hein, par les utilisateurs eux-mêmes. Donc chaque individu est toujours en même temps prescripteur et bien sûr lui-même consommateur ou utilisateur de l'information et du produit. Dans cet univers, je pointe là, j'ouvre une piste sur laquelle on aura peut-être sous forme de discussion, c'est une question. question assez complexe, mais que je pense très, très importante et très intéressante, c'est que l'un des enjeux de cette reconfiguration des pratiques et des relations, c'est paradoxalement, bien sûr, bon, toujours d'alimenter la machine d'information, mais c'est aussi paradoxalement quelque chose de rétrécir l'espace informationnel, de rétrécir les distances informationnelles, c'est-à-dire de diminuer les opportunités de tomber soi-même sur telle ou telle information, sur tel ou tel contenu, ou même de tomber en relation avec tel ou tel autre acteur du corps social, dans la mesure où de plus en plus, toute ma pratique va être elle-même déterminée par mes préférences, par mes goûts, par mon réseau social. Pour vous donner juste un exemple, on parlera peut-être plus tard, ce qu'on appelle le social search, donc qui sont des services qui se greffent de plus en plus sur la plupart des moteurs de recherche, vont faire en sorte que deux personnes posant la même requête dans Google n'auront pas le même résultat, parce que les résultats sont calculés non seulement en fonction d'une pertinence, bon, qu'on peut encore qualifier à peu près d'objectif, c'est-à-dire un calcul fait sur les pages, bien sûr en prenant en compte leur notoriété, on le sait, mais avec quand même une sorte de base commune. Mais maintenant, on va prendre aussi en compte, et de plus en plus, les données dites sociales, c'est-à-dire si je cherche, je sais pas, un restaurant thématique, on va pas seulement aller voir les mots-clés, la notoriété, on va d'abord aller voir dans la page Facebook de mes amis, sur le blog de mes amis, sur etc., ce que eux-mêmes ont recommandé. Et c'est d'abord ça qu'on va me proposer. Donc évidemment, nos espaces vont se restreindre. Ça pose tout simplement la question de la menace peut-être qui pèse sur la survivance d'un espace commun du savoir. Alors, deux derniers points rapidement, dans ce contexte dont je brosse à grands traits, évidemment, on va donc voir se développer des stratégies identitaires. Donc je pense qu'on comprend mieux quand on pose vraiment tous les enjeux que justement l'identité, ça n'est plus bien sûr quelque chose qui est simplement donné ou hérité, comme c'était encore assez largement le cas avec un état civil, un héritage familial, etc. Ça n'est plus la société elle-même qui va simplement affecter comme ça un statut social, mais ça va devenir de plus en plus un enjeu stratégique pour les individus eux-mêmes, bien sûr pour les entreprises aussi, pour toute personne physique ou morale donc qui a une présence numérique. Alors on le sait, ça va être largement dans certains cas assimilé à une marque avec tout un vocabulaire et toute une idéologie et des techniques qui sont celles le marketing, donc le personal branding, la gestion, la e-réputation, la veille, le marché de l'identité, etc. Il y a évidemment beaucoup d'argent à se faire sur ces questions, mais je pense qu'il est très important de pointer justement, bien sûr, qu'il y a une dimension idéologique dans cette injonction qui est faite de plus en plus à tout un chacun de gérer, je prends volontairement ce terme évidemment odieux, mais c'est justement de ça qu'il s'agit, de gérer son identité comme si c'était un simple stock de statuts, de traces, de données, avec toujours l'idée que l'individu, dans ce sens, va pouvoir se réduire à une image, au sens d'image de marque. En même temps, on le voit, c'est notamment les travaux de Denis Carbon que beaucoup connaissent, les individus sans forcément vraiment adopter complètement cette idéologie marketing, vont déployer effectivement des stratégies relationnelles, souvent très subtiles, avec toutes sortes d'états intermédiaires, c'est-à-dire se montrer, se cacher, déployer évidemment plusieurs identités, jouer du masque, révéler beaucoup de choses, mais en cacher beaucoup d'autres. Et donc là, on entre dans une véritable, à la fois des techniques et une sorte de, vraiment une nouvelle géographie de l'identité. On voit bien que l'identité et les questions liées à l'identité numérique, c'est pas juste se montrer ou se cacher, c'est pas dire qui on est ou ne pas le dire, c'est évidemment, ça ouvre un champ beaucoup plus complexe, beaucoup plus vaste, avec toutes sortes d'espaces intermédiaires, donc entre les espaces privés et publics, qu'on croyait pouvoir séparer de manière très claire. Sans doute, c'était déjà une illusion par le passé, mais là, bien sûr, de plus en plus, on voit qu'il y a, en fait, il n'y a peut-être que des zones intermédiaires. Donc là-dedans, après, on va pouvoir réfléchir, et c'est là, sans doute, que les questions de formation, bien sûr, vont intervenir. Bon, essayer de s'interroger, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, est-ce qu'il y a des mauvaises pratiques. On le sait, bien sûr, toute cette stratégie de traçabilité peut ouvrir sur les logiques de surveillance, d'expropriation des traces, typiquement Facebook qui finalement met la main sur votre profil et qui fait tout pour que vous ne puissiez pas vous-même en être propriétaire, pas en partir avec. Et puis de l'autre côté aussi des bonnes pratiques, c'est justement l'exercice d'une liberté, d'une inventivité et d'une présence très très forte, très créative, très riche, que beaucoup de gens, particulièrement les jeunes, bien sûr, ont su assez vite mettre en place. Alors, toute dernière piste que je vous propose, c'est celle sur laquelle je travaille, je dirais, un peu plus personnellement. Donc, c'est justement d'introduire cette notion de présence numérique de manière un peu à critiquer le simple syntagme « identité numérique ». Le problème de l'identité numérique, je le disais à l'instant, c'est que très vite, ça peut pousser à enfermer en fait un individu dans cette espèce de profil au sens très marketing du mot. Je préfère donc le terme de présence numérique, qui d'ailleurs n'est à mon sens pas tout à fait synonyme, mais pour en fait inciter à la fois à une réflexion et à des pratiques qui viseraient à libérer un peu notre présence sur les réseaux de cette obsession de l'image de marque et de profil. Je dirais très rapidement que la présence par différence avec l'identité et surtout avec la réputation, la présence c'est quelque chose qui va se déployer dans le temps et surtout c'est quelque chose qui n'est pas prévisible, c'est quelque chose qui est fondamentalement social, donc qu'on ne peut pas anticiper à 100%. Et l'un des éléments, je dirais, clés à mon sens dans la présence numérique, si on la définit comme ça, c'est une dimension justement qu'on n'a pas en avant dans l'identité numérique, c'est la dimension de mémoire. Donc moi je travaille en particulier sur ces questions, comment réaffecter une finalité mémorielle à nos traces, pour que nos traces ne soient pas simplement ces petits cailloux qu'on dépose un peu partout, que d'autres récoltent pour finalement nous contrôler et nous déterminer, mais pour se réapproprier nos propres traces, alors dans toutes sortes à la fois de pratiques, de dispositifs qui existent déjà, et qui revient, je dirais, peut-être à un sens, assez immémorial des traces, qui est de constituer des mémoires organisées, avec des projets de mémoire, et des mémoires, bien sûr, que l'on peut partager, donc qui posent la question d'un espace. Sinon, un espace public de la mémoire, en tout cas de mémoire partagée, et pas seulement du profilage des individus ou des individualités. Voilà. Je pourrais peut-être développer, donc bien sûr, si vous souhaitez, telle ou telle de ces pistes.
Merci pour toutes ces pistes et tous ces éléments de définition. Juste avant de laisser la parole à Karine Garcia, juste un point, il se trouve que j'ai participé il y a quelques semaines à une demi-journée d'études qui portait sur l'identité numérique des doctorants. Il est très clair que pour un certain nombre d'entre eux, les enjeux, ce sont d'abord des enjeux en termes d'identité numérique, sont vraiment des enjeux en termes de recherche d'emploi. Et donc là, très concrètement, on est très très loin, on est loin malgré toute cette dimension, on va dire, sociale et mémoriale, on est plutôt dans une recherche, on va dire, stratégique d'emploi, donc avec cette question. Donc mais par contre, le côté, l'aspect du monde mémorial, des traces, la dimension sociale, si elle est présente, elle est vraiment, perçue dans une dimension stratégique. Voilà. Donc, on peut le regretter ou pas, mais en tout cas, c'est aussi une réalité dont il faut tenir compte. Alors, ce qu'on vous propose, c'est partir directement peut-être avant de commencer, laisser la parole. Est-ce que parmi vous, juste un petit sondage comme ça express, est amené à intervenir sur la question d'identité numérique, que ce soit de manière directe ou indirecte dans ces formations? Petit sondage, une personne, deux, trois. Donc je crois pas me tromper en disant que ce n'est pas pour l'instant la majorité. Donc je sais pas comment est-ce que, je sais qu'au niveau de la schéma, vous avez au niveau professionnel développé comme une image qui se fait assez forte. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir dessus et puis nous en parler?
Peut-être recontextualiser. par rapport voilà, à ce qui vient d'être dit. Je vais essayer d'un petit peu rebondir. Donc là, je ne me targue pas d'avoir la bonne manière. Je pense qu'on est en fait dans la dimension du bac à sable actuellement, parce que enfin voilà, on avance un petit peu en marchant, avec des erreurs, des choses qui marchent. Donc peut-être vous expliquer un petit peu comment toute cette réflexion est arrivée. Alors, je rappelle, je fais partie de l'équipe des gimmicks, des documentalistes, animatrices, animateurs de communauté maintenant aussi, à la Schema Business School. Un petit peu comment tout ça a commencé. Alors, aux alentours de 2005-2006, vous avez toute l'émergence, en fait, cette vague un petit peu Web 2 qui nous est tombée dessus. Et bien sûr, nous, on travaille dans un contexte de multicampus avec énormément d'étudiants à distance, etc. Donc, c'est vrai qu'on était en pleine réflexion sur les nouveaux modes de médiation qui sont quand même le cœur de notre métier. On avait un petit peu ce besoin d'humaniser à distance. En même temps, le gros de notre public était des étudiants, donc des étudiants qui marchent aussi énormément sur le mode ludique. Il y avait toute cette réflexion, comment être constamment, enfin pouvoir être en contact en ligne très facilement, autrement que par le simple mail. Donc voilà un petit peu tout ce qui nous animait à l'époque. Alors c'est vrai qu'on était 6 à l'époque, donc assez, on va dire, avec l'image de geek un petit peu qui nous colle à la peau, parce qu'on a toujours dans l'équipe, on a toujours été très près des évolutions du web, surveiller, voir ce qu'on pouvait en tirer par rapport à notre métier, ce qu'on pouvait un petit peu utiliser. Donc c'est vrai que cette origine, d'abord, c'était, avant de parler de formation identité numérique de nos usagers, ça a été la construction de notre propre identité numérique. Parce que c'était difficile de pouvoir après dialoguer dessus si on ne la pratique pas. Donc on n'est pas parti avec une idée, il faut qu'on forme à l'identité numérique. C'est qu'on a construit sans le vouloir progressivement, parce que les outils arrivaient un petit peu les uns après les autres. On testait, on bidouillait, on paramétrait. Donc bien malgré nous, quelque part, on s'est un petit peu constitué notre identité numérique. Donc je me souviens, les premiers outils qu'on a dû utiliser, ça devait être Ziki à l'époque qui était le premier, et puis le début de Facebook, en tout cas en France. Et du coup, on s'est posé énormément de questions, nous. Comment, à un moment, nous, on se disait, mais comment on va se présenter? Alors il y a eu tout le débat, et je pense qu'il existe encore, parce qu'on en parle souvent encore avec Sylvain Mercier, hein, Bibliobsession. Est-ce qu'on joue sur une identité numérique institutionnelle, c'est-à-dire la médiathèque, etc., l'école de commerce qui était l'ESC à l'époque, ou est-ce qu'on joue sur une identité numérique personnelle de chaque individu, chaque membre de l'équipe? Ça a été vraiment notre premier gros travail, et c'était un choix. Je dis pas qu'il est judicieux ou non, mais c'est le choix qui nous a convenu à l'époque, parce qu'on voulait vraiment être identifié par rapport à nos thématiques, à nos compétences, etc., puisque chacun dans l'équipe, on est plutôt divisé en pôle thématique, et ça nous permettait de commencer avec cette réflexion qui commençait aussi à l'époque d'animation de communauté. C'est-à-dire que voilà, moi je suis animatrice de communauté marketing communication, c'est-à-dire que mon public cible, ça va être les étudiants, les chercheurs, les enseignants plutôt en marketing communication, ou qui à un moment donné en ont besoin, mais aussi les entreprises extérieures. Donc voilà pourquoi on a choisi délibérément une identité pas institutionnelle, en tout cas pas dans un premier temps, mais vraiment par personne dans l'équipe. On avait aussi, alors les outils sont arrivés les uns après les autres, on les testait, et on parlait tout à l'heure, enfin quand on écoutait la première intervention, vraiment on s'est aussi rendu compte qu'il y avait un petit peu des nouvelles manières de s'informer qui commençaient à émerger. Et voilà, là c'était un petit peu, on était vraiment les mains dans le cambouis, on commençait à tester les usages de nos étudiants, à poser des questions en début d'année, et à un moment, il y a 3 ans peut-être, les étudiants arrivent, par curiosité, on posait la question, mais combien d'entre vous ont un Facebook? Là, d'un seul coup, la claque, 85% à peu près de nos étudiants avaient un Facebook. Qu'est-ce qu'on fait? C'était la même chose avec quand vous faites une recherche, vous recherchez sur Google, 9 étudiants sur 10, ça, on connaît à peu près tous les chiffres. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Dans l'école, on était un petit peu là. Alors, de pourquoi nous, en tant qu'équipe de documentalistes, on est rentrés dans ce système et pourquoi pas d'autres services dans l'école, parce qu'on est a priori les seuls à s'intéresser au domaine. Donc ça nous est un petit peu revenu, voilà, c'était pas un choix, c'est qu'on s'est dit, voilà. Je reviens sur ce que tu viens de dire, c'est on est une école de commerce. Donc, le but d'une école de commerce, c'est de favoriser l'employabilité de ses étudiants. Donc, c'est vrai que le premier parti pris dans qu'est-ce qu'on peut apporter aux étudiants en matière d'accompagnement, de sensibilisation. Je parle pas vraiment encore de formation. Moi, je suis pas trop pour ce terme de formation à l'identité numérique, mais plutôt de sensibilisation et d'accompagnement. Je me sens pas experte de l'identité numérique. Je me sens pratiquante, tout simplement. Je pratique au quotidien, donc on imagine plus ça en retour d'expérience. Bien sûr, ça fait partie de ma veille, etc. Donc, c'est vrai que les premiers temps, on va dire 2008, 2009, ça a été bien ancré. C'est que au niveau de notre direction, ça a été « Ah, mais oui, lancez-vous là-dedans, c'est très bien, on vous suit. » Et ça a été très, très orienté employabilité. Le souci, c'est que moi, je suis pas non plus une experte des RH. Donc voilà, on pouvait commencer à donner des signaux, c'est-à-dire, comme on peut dire, des bonnes pratiques, des mauvaises pratiques, qu'est-ce que vous voulez faire parler, qu'est-ce que vous voulez dire de vous, etc. On se retrouvait confronté aussi, surtout, à un usage ludique, parce qu'en fait, les étudiants, ils n'ont pas besoin d'apprendre à étudier à utiliser un Facebook, à utiliser un MySpace, à utiliser un Twitter. Ils ont juste un usage qu'on a trouvé, justement, on les a pris comme ils étaient, c'est-à-dire un usage ludique. Voilà, ça, c'était la première constatation. Nos étudiants ont un usage ludique en arrivant, là. Imaginez le contexte d'une école de commerce, les soirées de début d'année, les bizutages, etc. Et là, quand on commençait à dire, pour ceux qui voulaient bien montrer leur Facebook... Ah ouais, la photo concours t-shirt mouillé sur Facebook, ça faut que tu à un moment c'est de se dire, est-ce que tu te rends compte juste, après tu fais ce que tu veux de ton profil, juste que tu saches que, on parlait de traces, hein, tout ce que tu vas maintenant laisser en activité sur le net, ça les aidera. Donc on est un petit peu rentré plus dans ce côté sensibilisation et moins employabilité, parce que nous on a une grosse divergence à un moment avec notre direction, on a dû un petit peu taper du poing sur la table. Et ça, j'étais absolument contre. C'est qu'à un moment, on nous a dit « Ah oui, il faut développer l'identité numérique de nos étudiants pour leur employabilité. Il faut qu'ils soient présents sur le net, parce que quelque part, c'est aussi l'image de l'école derrière. Moi, il était hors de question que j'oblige un étudiant à ouvrir un profil sur Facebook, sur Viadeo, sur LinkedIn, sur tout ce que vous voulez. Enfin, moi, parce qu'on était rentré, la première phase, on me disait, on va faire des modules, on va faire des cours, vous allez leur apprendre à faire un Viadeo, à faire un LinkedIn, à parler d'eux, etc. Et c'est noté à la fin. Là, moi, pas d'accord, l'équipe, pareil, on était vraiment... Et donc là, vous voyez, première... il est où le rôle du...
Juste une question. Ouais. Les critères de notation qui étaient proposés, c'était quoi?
C'était la façon de se décrire, qui j'ai dans mon entourage, qui sont mes amis, si je fais une recherche sur Google, comment je suis présent. Enfin voilà, c'était un petit peu ça. Et en plus, c'était un tout. Enfin voilà, moi, c'était des choses qui étaient vraiment trop loin de ce qu'on imaginait. Et puis... On avait des étudiants légitimement, mais qui n'avaient pas envie, et on a encore actuellement des étudiants qui n'ont pas envie d'être sur le net. Et moi, pour moi, c'est un respect de l'activité numérique. On ne peut pas obliger, en tout cas nous, par rapport à nos étudiants, d'être présents sur le net. On parle de droit à l'oubli, on peut aussi parler de droit à la non-présence numérique, en tout cas volontaire. Je mets de côté l'irréputation, etc. Donc voilà, au début, si je recontextualise un petit peu tout ça, de cet début, on va dire, de sensibilisation, il y avait un côté très, on va dire, personal branding et gestion de son irréputation qu'on nous avait un petit peu imposé. Donc, progressivement, ça a évolué. On a laissé un petit peu la main justement sur ces points au service entreprise et carrière de l'école qui est plus à même de gérer ça. Nous, on a juste sensibilisé le personnel de cette équipe. Voilà ce qui existe actuellement. Voilà ce qu'il faut connaître en matière de sensibilisation. Et on est là à gérer cette partie qui, pour nous, voilà, ça, c'était les premières erreurs. Hein. On avance en marchant, c'est la théorie du bac à sable. À côté de ça, vous aviez tous les outils qui commençaient à se populariser. Bon, vous avez les blogs qui arrivent, donc le flux RSS qui est très justement qui a été popularisé justement avec ce blog, même s'il existait depuis des années, et tous ces outils d'auto-information, hein, comme je pourrais les appeler. Donc là, on est revenu un petit peu dans notre cœur de métier, c'est-à-dire l'information et la recherche d'information en tant que telle. Et donc là, on a commencé à rentrer justement dans un accompagnement, dans une sensibilisation à, comme il y a une stratégie un petit peu au niveau de notre centre qui est apprendre et travailler autrement, qui est très liée à la stratégie de l'école, c'est un petit peu rendre autonome les étudiants dans le monde de l'information. Et on a commencé à toucher du doigt à une notion que Silver avait mis en avant à l'époque dans son blog, qui était la construction d'un écosystème informationnel et social. Là, on retrouvait nos vices, apprendre à veiller. C'est quoi, vous avez un sujet, vous avez un projet professionnel, votre projet professionnel, vous n'allez peut-être pas le préparer en troisième année, ça se prépare peut-être dès le début. Et nous, on est là aussi pour vous aider à vous informer. Comment je commence à construire mon écosystème de veille, mes flux RSS, les blogs, etc. Donc, on est plus rentrer dans ce type de formation, alors avec une présentation très très généraliste, parce que nous, en fait, je parlais de synergie tout à l'heure, on essaye de moins en moins de déconnecter le côté opaque, base de données, etc., outils propres à la médiathèque, et tout ce qui fait partie, en fait, de ce qu'on appelait des informations hybrides, des sites sociaux, des médias sociaux, etc. Et on essaye vraiment de faire des formations où tout est un petit peu mélangé. On parlait d'Activa tout à l'heure, mais tout simplement, quand un étudiant commence à ce qu'on lui apprend à construire son écosystème informationnel, etc., de recueillir des flux sur des sujets qui l'intéressent au niveau pédagogique, ou etc., j'ai perdu le fil de mon idée du coup. Construire son écosystème informationnel, je peux le construire moi-même. Et à un moment, c'est aussi, je vais être identifiée peut-être sur ce que je veille. À partir du moment où des étudiants décident de passer le pas, ouvrir un MedVibes ou etc., être sur Facebook ou être sur Twitter et montrer ce sur quoi ils veillent, ce à quoi ils s'intéressent. Là, quelque part, on rentre dans la construction de son identité numérique. Là, on participe en tant que professionnel de l'information. On peut pas diviser les deux choses et aussi de leur apprendre. Oui, c'est ça, j'ai retrouvé mon idée entre-temps. Par rapport aux bases de données, je parlais de Factiva. Voilà, vous allez veiller sur des blogs grâce au flux RSS, mais vous allez aussi veiller sur la presse. On parlait du Monde, de l'IB, etc. A priori, ces articles passant par Google, à part une certaine partie, sont payants dès qu'on rentre dans le système des archives de la presse. Donc c'est vrai que nous, ça nous permet de faire le lien, de dire, ah ben voilà, t'as un article qui t'intéresse, que t'as eu via tes flux RSS, tu peux pas le trouver gratuitement, repasse par Factiva. Donc essayer de trouver des synergies pour dire, au moment, les outils sont complémentaires. Faut pas forcément se dire, il y a la formation aux outils propres de la médiathèque et la formation aux outils sociaux, médias sociaux, etc. Donc, nous, on s'inclut, alors je pense qu'au niveau des BU, il y a le même système, c'est tout simplement, en fait, on a inclus tout ça dans ce qu'on appelle les formations TIS, qui sont, a priori, je pense que, je sais pas si en BU, etc., vous participez aussi.
Je pense que de manière générale, enfin, je parle de mon propre, mais je pense que je ne sais pas insulter mes collègues que de dire que oui, on s'inscrit dans des formations qui sont TIS, après dans des dispositifs on dit institutionnels qui sont variables, C2I, pas C2I, dans les maquettes, pas dans les maquettes, etc. etc.
Alors le basculement un petit peu vers cet écosystème informationnel qu'on s'est dit c'est vraiment pour nous notre cœur de métier, on se sent légitime. Là-dessus. Et de toute façon, personne d'autre dans l'école fait vraiment cette partie. Je sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo qui tournait, je pense, 2008, avec Charlie. Charlie, qui était en entreprise, c'était un petit PowerPoint qui circulait sur Internet, Alors Charlie, en fait, il avait, il travaillait avec une équipe qui était partout dans le monde. Il utilisait des outils de réseaux sociaux. Il suivait son patron, le blog de son patron via flux RSS. Il écoutait, en fait, il y avait son mentor dans l'entreprise qui faisait des petits podcasts qu'il écoutait le soir dans le métro ou qu'il regardait le soir dans le métro via son iPod ou etc. Il partageait une base de connaissances via Delicious, Indigo avec ses collègues. Il avait aussi son blog d'équipe, etc. Et en fait, on est parti de cet exemple qui collait vraiment bien vu que nous, on forme au métier de l'entreprise dans l'école. Donc, on est parti de cet exemple-là avec les étudiants en disant, ben voilà, c'est peut-être ce que vous allez être à la sortie de l'école. Donc, c'était à nous de, voilà, transformer. Et notre leitmotiv depuis, en fait, voilà, cette époque, c'est la construction de l'écosystème informationnel passe par j'ai un mode, on n'a pas besoin de les apprendre techniquement parlant à utiliser ces outils, mais je passe d'un mode ludique que je vais garder, mais je vais peut-être développer à côté un mode d'utilisation professionnel. Bien sûr que l'employabilité, de toute façon, elle est là en fil conducteur, mais on n'est pas là, nous, en train de développer un CV ou voilà une présence professionnelle en ligne, juste un usage, et là je reviens plus sur les usages. Voilà un petit peu, si je peux vous résumer le contexte de ce qu'on peut faire. Et les questions qu'on se pose encore, voilà, il y a encore des choses qui fonctionnent pas, il y a des choses qui changent encore tous les jours, et c'est énormément de dialogue aussi avec les usagers par rapport à ça.
Oui, je voudrais, avant de vous laisser la parole, rapidement réagir à ce qui vient d'être dit pour simplement souscrire complètement à cette formule « construire son écosystème informationnel ». Je crois qu'en fait, là où les formateurs de tous ordres peuvent en effet intervenir, c'est précisément pour faire comprendre que l'identité numérique, justement, n'est pas une question d'image. Ça n'est pas une question non plus de protéger ou pas protéger ces données, parce que c'est souvent comme ça qu'on pose le discours, en particulier à l'intention des jeunes, en leur disant attention à ne pas mettre autre chose sur Facebook ou ailleurs. Donc ce discours à la fois sécuritaire et évidemment disciplinaire, qui forcément est en général assez mal pris et donc assez inefficace. Alors qu'au contraire, en effet, il s'agit de faire comprendre que ces questions touchant à l'identité numérique ou à la présence numérique, peu importe là le terme, sont décisives, sont fondamentales, parce qu'en effet, c'est désormais une dimension de l'information. Et qu'en effet, ce qu'il faut essayer d'apprendre aux étudiants et aux élèves, c'est à construire, je reprends le terme, hein, un écosystème informationnel, c'est-à-dire à poser ces questions en termes de compétences. Et là, j'emploie le mot compétences dans le sens qu'il a, par exemple, dans... en linguistique, hein, nous recevons tous en quelque sorte comme héritage une langue, et ensuite évidemment les individus vont développer plus ou moins des compétences par rapport à cette langue, c'est-à-dire en fait des possibilités de s'approprier cette langue. Cette compétence, on la mesurera notamment dans la capacité de déployer différents registres de langage. Et je pense que là, on est exactement dans ce genre de problématique. Il faut accompagner les étudiants ou essayer de leur apprendre à pouvoir avoir les compétences pour déployer plusieurs registres d'identité numérique. Moi, j'ai constaté par exemple souvent que les étudiants... auxquels j'ai affaire à l'université, bien sûr, ont déjà toutes sortes d'activités numériques, ça va de soi, ont déjà forcément une présence numérique, ne serait-ce que sur Facebook, là aussi, évidemment, c'est les mêmes chiffres, hein, c'est 100% quasiment de présence sur Facebook. Mais en revanche, ce que j'ai constaté, c'est que pour la plupart, alors que ce sont des étudiants en sciences de l'information, hein, donc vous voyez, ils sont quand même doublement concernés, eh bien, ils sont encore assez peu justement dans cette idée de construction. Bon, nous, on a peut-être moins justement la pression de l'employabilité directe, je dirais, donc ils ont même pas encore trop ces stratégies-là. Et ce qui est frappant, c'est qu'ils ont encore hérité, je pense, d'une vision très cloisonnée des univers. Il y a l'univers institutionnel, il y a l'univers amical, il y a l'univers de ce qu'ils font même à la fac, qui est un peu entre les deux. Et ils ont beaucoup de mal, en fait, à justement penser en termes d'écosystème. Par exemple, même s'ils savent que nous-mêmes, enseignants, chercheurs, bah, pour la plupart, nous avons justement nous aussi notre identité numérique, nous avons une activité numérique, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur d'autres réseaux, très souvent, je constate qu'ils n'en font pas d'usage. Hein, ils ne pensent pas à faire le lien, donc ça pourrait évidemment souvent être très utile hein, dans leur travail, ou même dans leur relation avec nous. De même, à l'inverse, donc ils vont faire des tas de choses sur Facebook, et pour beaucoup, comme n'importe quel autre jeune, bah, ils vont laisser des tas de choses ouvertes. Or, un enseignant, sans être forcément voyeur ou trop curieux, bah, moi j'estime que c'est aussi un peu de son devoir d'aller de temps en temps voir ce qui se passe sur Facebook, pas forcément sur le profil individuel, mais je pense plus particulièrement au profil, aux pages, quand il crée des pages de la formation, c'est-à-dire de leur groupe. À ce moment-là, hein, ça concerne la formation. Donc, ben, moi, je vais lire cette page. Or, je constate que tout ce qui s'y échange, sans que ce soit forcément indiscret, hein, je veux dire, il n'y a pas d'intimité là-dedans, mais il n'en joue pas, il n'utilise pas le fait que, justement, c'est un espace public ou en tout cas semi-public. Donc là, je pense qu'il y a effectivement dans ce qu'on peut appeler, ce qui relèverait d'une formation, un accompagnement pour comprendre ce qui évidemment est extrêmement complexe à maîtriser pour tout le monde, le fait qu'évidemment le problème du numérique, c'est que tout est nivelé, tout communique, il n'y a pas d'espace complètement clos, tout est à un moment ou à un autre pour eux, il y a des chevauchements, et en même temps, je ne suis pas en train de dire que tout est exactement justement au même niveau, dans le même registre. Je suis au contraire en train de dire qu'il faut développer, déployer des registres différents, comme on parle donc de registres de langue. Mais il faut avoir conscience qu'à tout moment, il peut y avoir des passerelles. Et en fait, celui qui sera joué de ces passerelles, évidemment, construira justement une identité numérique plus performante en quelque sorte. En tout cas, ce qui est clair, je termine là-dessus, cette idée d'écosystème informationnel, effectivement, construire son identité numérique, c'est pratiquer les réseaux, c'est lire, écrire, échanger, partager. Hein, donc ça ne peut pas être séparé, c'est pas une rubrique de côté dans un ensemble d'apprentissage touchant au numérique. C'est le cœur même hein, de l'apprentissage et de la pratique du numérique. Hein. Donc plus on est productif, plus on est curieux, plus on est créatif, plus on lit, plus on échange, plus on va déployer soi-même une identité numérique riche. C'est ça, en fait, je pense que c'est là-dessus que la formation peut porter.